Bien, chers amis, c'est ma joie d'être de retour dans une des familles évangéliques de la région de Strasbourg, où je suis de temps à autre pour apporter le message de la parole de Dieu aux croyants ici et là. Cela me fait plaisir de revenir ici, c'est un peu un anniversaire, ça doit faire une dizaine d'années maintenant que je ne suis pas revenu chez vous, mais j'ai eu la joie entre-temps de visiter d'autres églises évangéliques de Strasbourg et des environs. Et la semaine dernière encore, j'étais à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Vous voyez que l'Alsace et moi, nous filons un doux amour. Et je suis très heureux chaque fois qu'il m'est donné de revenir chez vous. Je disais à nos amis romans dans la voiture que il y a bien longtemps, il y a près d'une trentaine d'années, mes trois sœurs, il en reste deux maintenant, mais mes trois sœurs à l'époque ont habité pendant deux ou trois années à Strasbourg avant de déménager toutes les trois à Paris. Ça a été aussi un grand changement pour elles à cette époque. Et donc je venais de temps en temps aussi à cette époque à Strasbourg pour leur rendre visite. Mais nous sommes là pour autre chose. Et nous allons ouvrir notre Bible sans tarder. J'espère que vous avez votre Bible. Nous allons lire plusieurs passages dans le cadre de notre réflexion sur la formation de l'homme spirituel. Nous lisons un premier passage, très court d'ailleurs, dans le chapitre 13 du premier livre de Samuel. Chapitre 13. Le verset 14, même pas entièrement d'ailleurs, 1 Samuel 13, verset 14, simplement une remarque de Samuel à Saül au moment où celui-ci vient de révéler un problème profond dans son cœur et dans sa vie. Et Samuel lui dit donc, au verset 13, Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. » J'aimerais que nous retenions cette pensée. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Nous y reviendrons. Au chapitre 16, les 13 premiers versets. 1 Samuel 16, les 13 premiers versets. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Mais comment irai-je ? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ? Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous, venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shamma, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avait de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Nous allons donc nous pencher, en tout cas pour une bonne partie de notre réflexion, sur David. Et ceux et celles qui aiment les Écritures, qui les fréquentent abondamment, ont sans doute remarqué que l'histoire de David occupe une grande place dans la Bible. En fait, cette histoire occupe même le deuxième rang en volume après celle de Jésus-Christ. Bien entendu, Jésus-Christ est présent partout dans les Écritures, de la première à la dernière page de la Bible. Mais 89 chapitres des Évangiles lui sont consacrés d'une manière toute particulière. Ensuite vient David. 60 chapitres environ sont consacrés à cet homme de Dieu. Oh, le volume n'est pas forcément dans les Écritures synonyme d'importance. Mais toutefois, en ce qui concerne David, il y a la preuve d'importance pour un certain nombre de raisons. Il y a dans l'histoire de David une richesse d'enseignement à tirer pour notre vie de disciple. Tout d'abord parce que David est un type de Jésus-Christ dans plusieurs aspects de sa vie et de son histoire. Il est un maillon important de la chaîne d'ascendance de celui qui est à la fois, nous disent les Écritures, vous le savez, le Fils et le Seigneur de David. C'est Jésus d'ailleurs lui-même qui en parle dans Matthieu 22, versets 41 à 45. C'est un des arguments dont Jésus va se servir pour appuyer sa divinité, sa messianité, sur la base de l'Ancien Testament, là où elle est réfutée, notamment par les chefs du peuple, les pharisiens, etc. Né de la descendance de David selon la chair, mais aussi Seigneur de David. Et puis la Bible nous dit qu'il est prophète de l'Éternel. Dans Actes 2, versets 29 et 30, dans le discours de Pierre, Pierre le dit très clairement, comme il était prophète. Et nous avons des psaumes de forte dimension prophétique. Le psaume 22, notamment, qui exprime toute la souffrance de Jésus-Christ, sa situation terrible, son abandon par le Père au moment des heures terriblement douloureuse de la croix. Un homme animé et inspiré par le Saint-Esprit. 2 Samuel 23, 2. L'Esprit de l'Éternel a parlé par moi et sa parole est sur ma langue. Nous avons en David l'un des rédacteurs inspirés des Saintes Écritures. Et ce n'est donc pas rien. Il est donc une des pierres de fondement de ce merveilleux édifice qu'est la parole de Dieu. Et puis enfin, David est un homme et un croyant de la même nature que nous. Et c'est ce qui le rend précieux à nos yeux, bien qu'il ait, il ait une carte de visite assez éloquente. Beaucoup de cordes à son arc. Musicien, 2 Samuel 23, 1 nous le présente comme le chantre agréable d'Israël. Poète, homme d'État, administrateur, généralissime, homme de guerre. C'est vrai. De quoi nous donner des complexes. Mais au même moment, tellement proche de nous. J'aime à dire que sur la surface de la terre entière, nous pouvons interroger nos frères et sœurs, disciples de Christ, de quelque race, de quelque origine qu'ils soient, sous quelque latitude qu'ils vivent, et ils nous diront combien ils aiment David. Le psaume 23 est certainement le texte des Écritures le plus chéri, le plus choyé, le plus aimé, le plus possédé par les croyants de la terre entière. Et c'est certainement d'ailleurs aussi le texte qui a été mis le plus en musique et qui est chanté sous les mélodies les plus variées qui soient sur la terre entière. Il était berger. Berger. Cela aussi peut-être nous rapproche de lui, son humble origine. Issu d'une famille nombreuse, le cadet en tout cas de 8 frères. Et il aimait sa maman. Il aimait sa maman puisqu'il la cite à 2 reprises dans le psaume 86 au verset 16 et dans le psaume 116 verset 16 aussi, c'est assez facile à retenir, et il la présente comme la servante de l'Éternel. Voilà une maman qui a joué un rôle prépondérant dans la piété de son fils. Et vous savez que les Écritures montrent le rôle des mères. Soit très mauvais, soit excellent dans la vie des enfants. Lorsque nous parlons de sa maman, nous parlons famille. Et là, notre cœur se serre. Parce qu'autant David fut un homme brillant au dehors, autant il connut l'échec dans sa vie familiale. Notamment au niveau de l'éducation de ses enfants, d'abord. Lorsqu'on lit certaines listes contenant les noms de ses enfants, on a mal. Je relisais aujourd'hui encore dans le train une de ces listes et je soulignais en deuil, en quelque sorte, en noir, les noms de 3 de ses fils. Amnon, l'aîné, assassiné. Absalom, exécuté par la vindicte de Joab, entouré de jeunes guerriers. Adonijah, exécuté pour avoir eu envie de s'emparer du trône. Adonijah, dont il nous est dit d'ailleurs, c'est à souligner au passage, que dans 1 Roi 1, 6, que jamais son père David ne lui avait fait un seul reproche tout au long de sa vie jusque-là. Et cela devrait nous fait réfléchir quant à la manière dont nous éduquons nos enfants. Le fait de ne pas avoir su dire non quand il le fallait et avec la fermeté requise a valu à David de nombreux déboires et à certains de ses enfants de vivre des drames et de terminer si mal leur vie. Absalom qui était vraiment le fils chéri du père. Mais quel orgueil, cet orgueil qu'il a perdu. Et puis vous le savez, nous n'allons pas nous appesantir sur le drame de l'adultère. Au sommet de la carrière, alors que tout allait si bien, il y a eu ce moment de faiblesse, mais aussi ce moment de péché. Tout simplement parce que là, David a cessé de vivre dans le temps de Dieu, à l'heure de Dieu et à l'endroit où Dieu le voulait. Au lieu d'être à sa place sur le champ de bataille, à la tête de son armée, il s'est installé dans la paresse peut-être de la jouissance de son succès et il a succombé à la tentation. Et vous savez certainement comment toute la suite et la fin de David ont été tristement assombris par cette chute au sommet de la royauté. Et comment Absalom, justement, en a profité, comment Adonija en a profité, puisque l'autorité du père était sapée par une grave chute dans l'exercice de la royauté. Voilà encore des avertissements, puisque ces choses ont été écrites pour servir à notre instruction, à nous qui vivons avec toute la révélation de la nouvelle alliance. Il nous est connu pourtant pour sa profonde spiritualité. Nous devons reconnaître, malgré tout ce que nous venons de dire, que sur l'ensemble de la vie de cet homme qui est mort dans sa 71e année, après 40 ans de règne, il y a eu peu de grandes chutes, heureusement, mais de nombreuses victoires. Et nous pouvons vraiment placer cet homme dans le cadre de l'ancienne alliance parmi les hommes spirituels. Les hommes qui, à la lumière de leur connaissance de Dieu, à cette époque, avaient soif vraiment de marcher avec lui. C'était un homme de prière, David. Et ne fût-ce qu'en cela, il nous interpelle. Dans notre monde de stress, dans notre monde tellement trépidant, dans notre monde où nos priorités sont si souvent complètement chamboulées. Voilà un homme de Dieu qui nous rappelle l'importance de la prière personnelle, comme de la prière en public. Pensez que sur les 5 livres du psautier, les 150 psaumes, nous en avons 73 qui sont signés de cet homme de Dieu. Peut-être y en a-t-il d'autres, puisque certains ne portent aucune signature. Mais 73, c'est-à-dire en tout cas la moitié, sont de lui. Un homme de prière. Voilà, brièvement présenté, si cela était nécessaire, cet homme de Dieu sur lequel nous allons nous pencher essentiellement en ce qui concerne sa formation. Et nous commençons déjà à toucher au sujet. Ce soir, nous allons essentiellement introduire, tracer des grandes lignes, préparer le terrain des 3 prochaines étapes de notre réflexion. Au moment où commence l'histoire de David, nous sommes au 11e siècle avant Jésus-Christ. Et 1 Samuel 16, que nous avons lu tout à l'heure, nous raconte donc la première onction de David. Il nous est dit d'ailleurs dans la conclusion du texte, au verset 13, que à partir de ce jour-là, à partir du moment de cette onction, qui annonçait sa royauté future. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Nous pouvons établir un parallèle avec notre vie personnelle. Je pense ici à la nouvelle naissance, la régénération. Ce moment où enfin nous ouvrons nos vies à celui qui a les droits les plus absolus sur elles, le Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment où l'onction royale nous est conférée. Tout simplement parce que c'est le moment où nous entrons dans une famille royale. Un Pierre de Neuf indique que les enfants de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, dans chacun de ses membres, est un sacerdoce royal. Nous devenons, au milieu des hommes, des princes de Dieu. C'est ainsi qu'était appelé, par exemple, Abraham, dans Genèse 23, verset 6. Au moment même de notre régénération, l'Esprit de l'Éternel nous saisit. À partir de ce jour et dans la suite. Et cela me rappelle cette expression de l'apôtre Paul évoquant la manière dont il a été terrassé sur le chemin de Damas, puis travaillé en profondeur dans les douleurs de l'enfantement à la vie nouvelle durant 3 jours dans l'obscurité, le jeûne, peut-être un profond désarroi, jusqu'à ce qu'Ananias vienne auprès de lui. Il dira plus tard, j'ai été saisi par Jésus-Christ, j'ai été empoigné par Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui nous saisissons de l'Esprit pour obliger à entrer dans le moule de nos mentalités. C'est le Saint-Esprit qui prend possession de chacune de nos vies pour transformer notre mentalité, et ce n'est pas la même chose. Et c'est ici que l'histoire de David va devenir particulièrement intéressante dans le cadre de notre thème. Quand l'onction royale nous est conférée, en réalité, nous sommes rois en puissance. Lorsque le jeune berger, David, a reçu cette onction, il n'est pas monté dans l'heure qui suivait au son des trompettes sur le trône. Il était roi en devenir. Dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, nous dirions dans la mentalité de Dieu qui vit en dehors du temps, David était roi. Mais il ne l'était qu'en puissance. Et de la même manière, quand l'onction royale nous est conférée, en réalité, nous sommes un roi en devenir. Le Saint-Esprit doit entreprendre notre éducation royale pour que nous puissions exercer notre fonction d'enfant du roi des rois et du seigneur des seigneurs, pour que nous puissions manifester une vie royale, un caractère royal, accomplir des œuvres royales. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vrai roi dans le domaine spirituel? Qu'est-ce que c'est qu'un vrai roi? Qu'est-ce que c'est qu'un fils de roi aussi? Eh bien, c'est un croyant dont le cœur est en réalité le trône incontesté de Dieu. Ce qui fait de nous des rois, ce n'est rien qui soit en nous-mêmes. Mais c'est le règne concret, pratique, visible du roi des rois et du seigneur des seigneurs en nous. Christ, Seigneur de ma vie. C'est facile à dire. Et il semble que le terme Seigneur ne veuille plus dire grand-chose pour nous aujourd'hui. Il avait un impact dans notre beau pays de France, dans une partie de son histoire. lorsque le joug des seigneurs, ou encore leur protection, le joug pesé, la protection servée aux paysans, aux serviteurs. Alors oui, mais aujourd'hui. Par contre, lorsque nous voyons quelque peu ce terme dans son contexte de l'époque, alors le Seigneur, c'était autre chose. Vous savez que c'est au cours, dans les années de la vie de Jésus-Christ en particulier, et ensuite dans l'Église primitive, que la seigneurie de l'empereur est devenue une seigneurie absolue. C'est à cette époque qu'il a voulu absolument être considéré comme divinité, comme Dieu. Et cela n'a pas été sans poser de graves problèmes à ceux qui se convertissaient à Jésus-Christ. Ah, il y avait le Seigneur et ses esclaves. Et puis il y avait le Seigneur, nous dirions en français avec un grand S, l'unique. C'était César. C'était César. Et à cette époque de l'Empire romain, quand les fonctionnaires, les soldats, se croisaient dans les rues de Rome et en d'autres lieux de ce vaste empire et qu'ils se saluaient, c'était en utilisant toute cette terminologie. César est Seigneur, disait-il, et l'autre de répondre, oui, le Seigneur, c'est César. Et puis lorsque quelqu'un se tournait vers Jésus-Christ, lorsque quelqu'un là au fond de sa prison, aux côtés de Paul, qui était un évangéliste hors pair et qui convertissait soldat après soldat, n'est-ce pas? Lorsqu'un de ces soldats se retrouvait en patrouille ou dans les rues de la cité, tout fraîchement tourné vers Jésus-Christ, tout illuminé de cette nouvelle relation avec son Seigneur, et qu'il était interpellé, César est le Seigneur! Quel problème? Allait-il répondre, oui, oui, le Seigneur, c'est César? Grave question. Et vous savez que plus l'Empire romain est allé vers sa décadence, plus bien sûr l'empereur est devenu méfiant, méfiant de tout, des moindres complots autour de lui. Et plus aussi il a multiplié les vérifications pour s'assurer de la loyauté de ses sujets. Alors cela signifiait que n'importe quel jour et dans n'importe quel petit village de l'Empire, une cavalcade pouvait annoncer à l'entrée du village l'arrivée des troupes de César avec un représentant officiel de l'empereur. On dressait rapidement l'autel, on y installait un brûleur d'encens et toute la population était conviée, invitée à venir pour prouver sa loyauté à César. Alors on voyait ces gens qui venaient là défiler sous l'œil sévère, scrutateur, inquisiteur de l'autorité romaine. Les soldats étaient là, quelques pas prêts à intervenir. Et chacun devait jeter un peu d'encens dans la flamme et s'écrier « César est Seigneur ». Et que se passait-il ? Lorsque cette formule quasi magique ne retentissait pas sur la place du village, eh bien c'était souvent la mort, l'exécution, la déportation, et que sais-je encore. Et c'est ainsi d'ailleurs, et j'ai relu cette histoire bouleversante de Polycarpe, qui était certainement un disciple de l'apôtre Jean, évêque de l'église de Smyrne, et qui resta fidèle jusqu'à sa mort sur le bûcher en l'an 155, tout simplement parce qu'il avait refusé de dire César est Seigneur. On l'avait amené au stade, le proconsul l'avait pressé en ces termes, « Jure et je te laisse aller, maudit le Christ !» Et Polycarpe, le vieillard, de répondre, je l'ai servi 86 ans et ne m'a jamais fait de tort. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Et alors le proconsul d'insister et le vieillard de répliquer, mais puisque tu insistes inutilement pour me faire jurer par le nom de César et que tu prétends ne pas me connaître, laisse-moi te dire avec force que je suis un chrétien. Et au bout d'un moment, le proconsul de répondre, mais j'ai des bêtes et je te livrerai à elles si tu ne changes pas d'avis. Et devant la ténacité de cet octogénaire, le proconsul de continuer, mais je te ferai brûler par le feu puisque tu méprises les bêtes si tu ne changes pas d'avis. Et Polycarpe simplement de répondre, tu me menaces d'un feu qui brûle un moment et peu de temps après s'éteint, car tu ignores le feu du jugement à venir et du supplice éternel réservé aux impies. Mais pourquoi tarder? Va, fais ce que tu veux. Et puis après, l'histoire raconte que c'était un jour de sabbat et les Juifs eux-mêmes ont violé le sabbat pour entasser les fagots et allumer le feu. Et c'est ainsi que Polycarpe rejoignit son Seigneur. Oh, nous utilisons ce terme « Seigneur » si facilement. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Que ce soit au culte, à la réunion de prière, dans la prière personnelle à la maison, dans les chants, non. Ce sont ceux-là même qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire qui véritablement mettent en pratique cette seigneurie. Je suis très frappé de constater une chose qui n'est pas sans importance, à savoir que lorsqu'on examine le Nouveau Testament et que l'on cherche le nombre de fois où Jésus-Christ porte le titre de sauveur, Jésus signifie sauveur, mais Jésus porte le titre de sauveur dans un certain nombre de passages. Et ce qui est intéressant, cela m'a beaucoup frappé, c'est que je n'ai pu trouver dans la totalité du Nouveau Testament que 16 passages dans lesquels Jésus-Christ porte le titre de sauveur. Seulement 16. Savez-vous combien de fois Jésus-Christ porte le titre de Seigneur dans le Nouveau Testament? Plus de 470 fois. 105 fois, Jésus-Christ est appelé Seigneur dans le livre des Actes. Et à l'intérieur du livre des Actes, la plus forte densité du terme Seigneur se situe curieusement dans la conversion de Saul de Tarse. Si nous voulons voir sur le plan pratique et concret ce que signifie la seigneurie de Jésus-Christ dans une vie, allons voir comment Saul de Tarse a été terrassé par le Seigneur et comment ensuite la seigneurie de Jésus-Christ immédiatement dans les 3 jours qui suivaient est devenue quelque chose d'éminemment concret. Dans sa vie personnelle, dans son désir de se joindre à une église locale, de rejoindre des frères pour témoigner à leur côté. Et puis, justement, dans l'évangélisation, dans le don de sa vie, dans les risques qu'il a aussitôt courus, dans le service de son Seigneur. Qu'en est-il, mes bien-aimés, de la seigneurie de Jésus-Christ dans nos vies? Voilà une grande question. Un vrai roi dans le domaine spirituel, c'est quelqu'un qui laisse Jésus-Christ régner concrètement, pratiquement, visiblement, dans sa vie. Le Seigneur règne-t-il dans notre vie personnelle? Alors, Ce qui est intéressant à constater dans l'histoire de David, pour revenir à cette histoire de David, c'est qu'une bonne dizaine d'années de formation ont commencé avec ce chapitre 16 et cette première onction. Et ce n'est qu'au bout de cette dizaine d'années que David a commencé à régner effectivement. Et encore, il n'a pas, dans un premier temps, régné sur tout Israël. Si vous cherchez dans 2 Samuel 2, verset 4, il nous est dit que les hommes de Juda vinrent, et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Après même ce temps de formation toute particulière, David va exercer un règne restreint à la maison de Juda, n'est-ce pas? Si vous allez maintenant au chapitre 5, nous lisons au chapitre 5, verset 1er, nous allons lire l'ensemble du passage. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais, qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. Troisième onction. Alors, la grande particularité de David, et il y a là tout un enseignement à tirer, c'est que David n'a pas connu une seule onction royale. Mais il en a connu trois. La première, nous l'avons vue, jeune homme. La seconde, une dizaine d'années plus tard, à l'âge de 30 ans. Il a régné pendant 7 ans et demi, donc de l'âge de 30 ans jusqu'à 37 ans et demi, sur Juda. Et après cela seulement, une troisième onction royale a étendu son règne, son gouvernement, à l'ensemble d'Israël pour 33 années encore, puisqu'il est mort, je le disais tout à l'heure, dans sa 71e année. Et les versets 4 et 5 résument bien cette pensée. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Et nous dirons que chacune des trois onctions de David était prévue dans le plan de Dieu et est intervenue à l'heure de Dieu. Et ce qui s'est passé notamment entre la première et la seconde onction est d'une importance capitale. Parce que c'est en quelque sorte le temps séparant la royauté en devenir de la royauté vécue dans toute sa réalité. Et voilà pourquoi j'ai eu à cœur de creuser ces chapitres 16 à 31 du premier livre de Samuel et les deux premiers chapitres du deuxième livre de Samuel, pour essayer de comprendre pourquoi ou comment Dieu s'y était pris pour former David à la royauté. Lui qui a joué un tel rôle dans le plan de Dieu, dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire du peuple de Dieu en général. Le journaliste Pierre Doublet rencontra par hasard un jour son professeur de lettres dans les jardins du Trocadéro à l'époque du baccalauréat. Et cela se passait il y a déjà pas mal de temps, et celui-ci lui confia: observez bien Giscard d'Estaing, ses parents veulent en faire un président de la République. Il était étudiant à cette époque. C'est intéressant de voir cette remarque avec le recul, puisqu'effectivement ensuite Giscard d'Estaing est devenu président de la République. Et j'aime cette illustration parce qu'elle nous invite aussi à bien observer David. David dont Dieu voulait vraiment faire d'une manière toute particulière un roi. Observons bien David pour voir comment Dieu forme les hommes qu'il emploie. Et nous verrons que ce que l'on peut détecter dans la pédagogie de Dieu pour former David On le détecte dans la pédagogie de Dieu aussi, pour la formation de quantité d'autres hommes et femmes de Dieu dans les Écritures et dans l'histoire de l'Église. Vous avez remarqué dans 1 Samuel 16, verset 1, cette remarque de Dieu à Samuel lorsqu'il lui dit « J'ai vu parmi ses fils, les fils d'Isaïe Bethléemite, celui que je désire pour roi. J'ai vu un roi pour moi. » Voilà comment cela a été parfois traduit dans certaines versions. « J'ai vu un roi pour moi. » Au verset 7, nous avons lu ensemble « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Nous avons aussi lu 1 Samuel 13, 14, « L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. » Dans le Nouveau Testament, dans le même sens, Actes 13, 22, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Deux grandes idées, tout d'abord le regard de Dieu, et d'autre part, le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui a frappé le regard de Dieu chez David? C'est une grande question. Qu'est-ce qui a déterminé le choix de Dieu pour qu'il dise à Samuel, « J'ai vu un roi pour moi. » Quelle disposition a-t-il vu dans le cœur de David pour le choisir? Et que voit-il dans nos cœurs? Bien entendu, vous me direz, mais David était un homme de la même nature que nous. Il n'y avait aucun mérite quelconque qui puisse jouer sur la décision de Dieu. Parce que tout est grâce. Mais Dieu connaissait le présent et l'avenir de David. Et il y a effectivement dans le cœur de David quelque chose qui répondait au cœur de Dieu. Il y avait comme un écho. Et Dieu aimerait trouver dans nos cœurs un écho, en quelque sorte, à son propre cœur. Est-ce qu'il y avait dans la vie de David, nous allons le voir, c'est un désir d'être droit. Une disposition à la droiture de cœur. Je ne veux pas dire que David était droit. Mais il avait soif de droiture. Il avait soif d'intégrité. Il avait le désir d'être un homme vrai. Un homme authentique. Transparent. Aimant la vérité. Est-ce que vous aimez la vérité? C'est important. Plus j'avance dans ma marche avec le Seigneur, plus je constate qu'on perd beaucoup d'amis dans la vie chrétienne. Et on perd ses amis dans l'Église de Jésus-Christ. Et on peut d'ailleurs tester les vrais amis dans l'Église de Jésus-Christ. Les vrais amis dans l'Église de Jésus-Christ, ce sont ceux qui aiment la vérité. Oh, nous avons de la peine à aimer la vérité. Beaucoup de peine. Est-ce que nous l'aimerons d'ici dimanche? Surtout lorsque cette vérité nous dérange, lorsqu'elle trouble le cours traditionnel de notre vie. Nous n'aimons pas la vérité qui dérange. J'ai lu dans le train un livre très intéressant qui vient de sortir, écrit par un serviteur de Dieu qui a l'honnêteté de raconter comment, après plusieurs années de ministère, il a accepté de céder à la contrainte du message de la parole de Dieu pour changer ce qu'il croyait dur comme fer. Et ce pourquoi il militait dans son ministère en tant que pasteur. Et avec beaucoup de sobriété, mais d'honnêteté aussi, il raconte combien grand fut son combat pour se soumettre à la vérité des Écritures et reconnaître qu'un certain nombre de domaines dans lesquels il avait cru dur comme fer, où il s'était même parfois forcé de croire comme par une sorte de méthode couée, il devait maintenant y renoncer et le dire aussi au conseil de son Église et ensuite à l'Église tout entière. Aimer la vérité. Est-ce que nous aimons la vérité? Je le redis ce soir. Dieu est un Dieu de vérité. Tu gouvernes ton royaume avec droiture. Hébreux 1:8 au sujet de Jésus-Christ. Psaume 9:9, l'Éternel juge les peuples avec droiture. Psaume 25, verset 8, l'Éternel est bon et droit. Jacques 1, 17, Dieu est le Père des Lumières. Il n'y a chez lui ni ombre, ni changement, ni la moindre variation. Notre Dieu est un Dieu totalement transparent. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre racontant par le détail la conquête de l'Annapurna par Maurice Herzog, un personnage bien connu que nous avons pu voir à l'occasion des derniers Jeux d'Albertville. Maurice Herzog a donc vécu cette expérience à la fois belle mais héroïque et terrifiante par certains côtés en 1950 en étant vainqueur de ce 8000 dans la chaîne de l'Himalaya, et il a eu donc l'occasion bien souvent depuis de raconter un peu son expérience puisqu'il est redescendu de l'Annapurna avec les pieds et les mains gelés. Et il a vécu des moments terribles, terribles, notamment à cause de ses gelures. J'ai là un extrait de son livre dans lequel il parle de c'est l'état de ses pieds lorsqu'il est arrivé à Paris. Il y avait des vers dans ses pieds qui étaient devenus énormes, plus gros qu'une aiguille à tricoter, et on en a retiré au moins une demi-livre. Et ça, c'était la fin du douloureux pèlerinage qui avait commencé sur les pentes de l'Annapurna après la victoire. Et en 1982, Maurice Herzog, à l'occasion d'un grand congrès à Grenoble, a rappelé cet événement et il a dit ceci: il est plus digne d'être vrai que d'être fort. Il est plus digne d'être vrai que d'être fort. Aujourd'hui, mes bien-aimés, la force est exaltée, mais la vérité est en chute libre. Et je pense que c'est le cas non seulement dans le monde, mais trop souvent c'est le cas dans nos églises. La force, le succès sont exaltés, mais la vérité, cette vérité qui nous transperce, qui nous dérange. C'est là notre dignité. Je pense à cette petite paysanne qui était interrogée par le curé de la paroisse. Elle était dans une chapelle, elle suivait le catéchisme. Et le curé de poser simplement cette question, mais qu'est-ce que c'est qu'un saint ? Et il rendit le doigt sur elle. Alors après avoir essayé d'allonger ses oreilles pour entendre les définitions que pouvaient lui souffler les copains, en mal de réponse, elle réfléchit, elle regarde autour d'elle pour essayer de trouver une inspiration, et subitement son visage s'illumine, elle dit, monsieur le curé, un saint, c'est un personnage qui est traversé par la lumière. Tout simplement parce qu'elle avait vu les vitraux qui étaient illuminés. Et il y avait là certainement une galerie de personnages bibliques et autres, n'est-ce pas ? Et c'était merveilleux. Un saint, un personnage traversé par la lumière. Et c'est vrai que c'est une belle définition. L'apôtre Paul parle de son souci de limpidité. Vous avez deux très très beaux textes dans le Nouveau Testament, dans la première aux Corinthiens par exemple, je crois, vous avez un texte qui parle de cette question de limpidité. Première ou deuxième aux Corinthiens, ça doit être le début de la deuxième aux Corinthiens. Au chapitre 1er, verset 12, ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté, littéralement avec limpidité devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Et si vous allez au chapitre 2, par exemple, et au verset 17, l'apôtre Paul continue, nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec limpidité, littéralement, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu, avec limpidité. Il semble que dans l'étymologie du terme grec, il y ait une allusion à l'efficacité de la lumière du soleil qui traverse de part en part. La transparence constatée, la limpidité du cristal le plus pur, le fait d'aimer la vérité. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Vous connaissez ce texte d'Ecclésiaste 7:29, ou encore le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, Jérémie 17, verset 9. Alors il y avait chez David cette soif. Cette soif d'intégrité, de vérité, de droiture, qui allait permettre en quelque sorte à Dieu de le former, de travailler en lui comme nous allons le voir. Pourquoi ? Parce que la droiture, la vérité, c'est une des pierres de touche du caractère chrétien. La plus grande préoccupation d'un disciple de Christ n'est pas d'être heureux, mais bien aimé. C'est d'être saint. Oh, je ne veux pas dire que Dieu ne veuille pas que nous soyons heureux. Mais ce n'est pas la première des préoccupations. La première des préoccupations est d'abord une préoccupation d'être saint, de vivre dans la justice, de vivre dans la vérité, de pouvoir vivre en compagnie des hommes droits. Le reste, le Seigneur le donne par-dessus tout. Alors nous allons peut-être simplement, brièvement pour terminer, le temps passe, partir avec notre micro en reporter pour interviewer certains contemporains de David, pour leur poser cette simple question, mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de David ? Vous le voyez vivre ? Qu'est-ce que vous pensez de lui ? Pour voir comment on réagissait au sujet de David autour de lui. Par exemple, nous allons interroger dans un premier temps Salomon, son fils. On va aller directement dans sa vie de famille. Vous savez, c'est toujours intéressant de savoir ce que les enfants pensent de leurs parents. 1 Roi, chapitre 3, verset 6. On va lire à partir du verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit : Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit : Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité. C'est intéressant. Je viens ce matin, juste avant de prendre le train, d'envoyer à l'imprimeur mon second livre sur lequel j'ai longuement travaillé durant des mois et qui traite de la fidélité. Parce qu'il est frappant de constater que c'est une vertu qui occupe très peu de place. Dans nos lectures, dans l'Église de Jésus-Christ, on parle de beaucoup de choses, mais très peu de la fidélité. Or, la parole de Dieu est pleine du message de la fidélité. Au point même, d'ailleurs, que le Seigneur Jésus, lorsqu'il évoque son retour, dans les paraboles des 10 vierges, des talents, des mines, dans plusieurs passages très importants, centre sur la fidélité. C'est intéressant. Dans les lettres aux 7 églises du début de l'Apocalypse, le grand message concernant ces 7 églises est encore un message de fidélité. Nous ne serons pas jugés à notre succès, bien loin de là. Nous ne serons pas jugés parce que notre église est peut-être pleine à craquer le dimanche, bien loin de là. Nous serons jugés sur la base de notre fidélité. Et c'est intéressant de voir que Salomon reconnaît que son papa était un homme fidèle. Il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Dans la droiture de cœur. Il n'avait pas un double comportement. Il n'y avait pas un papa de l'Église et un papa à table. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y avait pas un papa de la vie professionnelle et puis un papa de la vie religieuse. Voilà un fils qui pouvait rendre ce témoignage, voilà mon père, avec ses dérapages et ses humiliations, a été un homme vrai, un homme fidèle. Quelqu'un demandait un jour à Whitfield, qui a été, je dirais vraiment lui, tout juste avant Wesley, le véritable fondateur du méthodisme, en réalité, quelqu'un lui demandait si telle personne, là, dans un auditoire, était convertie à Jésus-Christ. Et Whitfield simplement de répondre, je ne sais pas. Je n'ai pas demandé à sa femme. Alors, est-ce que Salomon a dit juste, a dit vrai? Parce qu'après tout, on peut très bien avoir un fils dans sa poche, un fils préféré qui nous chouchoute et qui donc va avoir un jugement erroné dû à des relations privilégiées. Alors, ce qui est bien, c'est que Dieu a répondu à Salomon. Et dans 1 Roi 9, verset 4, Dieu dit à Salomon, « Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité, mieux encore, avec intégrité de cœur, c'est plus exact, c'est encore plus que la sincérité, l'intégrité. L'intégrité, c'est-à-dire le fait d'être entier, de ne pas être fractionné. mais d'être une totalité, c'est-à-dire de ne pas montrer simplement une partie de nous-mêmes dans une certaine direction, tandis que l'autre va dans une autre direction, mais d'être vraiment un être entier et non fractionné. Si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, avec intégrité de cœur et avec droiture. Avec droiture, en aimant ce qui est droit. Faisant tout ce que je t'ai commandé. Vous voyez que Dieu était d'accord avec le verdict de Salomon sur son papa. Salomon, tu avais raison. Je te rejoins. Quand je fais le tour de la vie de mon serviteur David, eh bien, je dois aussi dire que ton père David marchait avec intégrité de cœur et avec droiture. C'était un homme, David, qui avait soif d'apprendre. C'était un homme qui acceptait d'être corrigé. C'est une des grandes différences entre David et Saül. Le drame de Saül, c'est que Saül n'a pas accepté d'apprendre et il n'a pas accepté d'être corrigé. Est-ce que nous acceptons d'apprendre? Est-ce que nous acceptons d'être corrigés? Alors, vous le savez peut-être, les rédacteurs inspirés du premier et du deuxième livre des rois ont utilisé la droiture de David comme point de repère, continuellement. Pour les bons rois, il s'agissait d'avoir David en point de mire. Pour les mauvais rois, c'était Jéroboam qui était en point de mire. Et continuellement, vous avez ce refrain qui revient, ce maître étalon évaluant les successeurs. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Ou toutefois, pas comme avait fait David son père, etc. Alors vous avez une multitude de textes, 1 roi 15, 3, 5, etc. Vous allez tout au long du livre des rois et vous voyez continuellement David en arrière-plan, comme maître étalon. Et puis, on chantait beaucoup à cette époque. Vous savez que David aimait tout ça. Et Asaph, l'un des trois directeurs de chœur à Jérusalem, fondateur d'ailleurs d'une confrérie de chantres, va dire ceci dans le psaume 78, versets 70-72. Il choisit, donc Dieu choisit David, son serviteur, il le tira des bergeries, il le prit derrière les brebis qui allaitent, pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage, et David les dirigea avec un cœur intègre. Vous remarquez cette continuité, c'est quelque chose de très frappant en ce qui concerne David. Droiture, intégrité. Un homme entier, un homme aimant la vérité, un homme aimant la droiture. David les dirige avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Allons frapper à la porte d'un roi païen, voir ce que les païens pensaient de David. Alors nous avons un texte dans 1 Samuel 29, verset 6. 1 Samuel 29, verset 6, qui est très intéressant. Puisque le roi des Philistins, Achish, roi de Gath, dira à David ceci, « L'Éternel est vivant, tu es un homme droit. » Alors ce qui est intéressant, c'est que Achish, le païen, dit à David qu'il le considère comme un homme droit à un moment où David est en train de tricher. Il a vécu environ 16 mois là d'une situation extrêmement ambiguë, où il n'était pas dans le plan de Dieu, où il s'est réfugié en dehors de la volonté de Dieu pour échapper à la formation spirituelle dont nous allons parler. Et à ce moment-là, curieusement, en vivant auprès d'Achish, Achish, le roi païen, va pourtant lui faire remarquer, mais tu sais, tu es un homme droit. Alors j'aimerais terminer simplement
avec une appréciation qui est une fausse note, après tout ce que nous avons dit de bien. C'est au chapitre 17, 1 Samuel 17, verset 28, l'appréciation de l'aîné dont il nous est parlé au chapitre 16, verset 6, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et Dieu dit non. Non, non. Samuel, tu as beau avoir beaucoup d'expérience, une longue carrière spirituelle derrière toi, tu es dans l'erreur. Toi, tu t'es laissé avoir par les apparences. Toi, tu as regardé à l'extérieur, moi je regarde au cœur. Et je ne suis pas d'accord avec toi. Et sous-entendu, il y a quelque chose chez Éliab qui fait que je ne peux pas envisager de faire de lui un roi selon mon cœur. Alors, bien entendu, nous sommes tentés de dire, mais Seigneur, pourquoi ? Alors Dieu est bon, il nous a donné la réponse. Et la réponse, nous l'avons dans le chapitre suivant, le chapitre 17, dans cette confrontation entre David et Goliath, dans le verset 28, lorsque David arrive avec le casse-croûte sur le champ de bataille et qu'il voit, là, c'est les soldats d'Israël habituellement si virils, qui tremble comme des feuilles mortes et qu'il entend là ce que raconte Goliath. Alors il va de l'un à l'autre pour savoir exactement ce qui se passe. Et au verset 28, il nous est dit, Éliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Oh. Alors on a vu la vie de Salomon, on a vu la vie d'Azaph, on a vu la vie d'Achish, on a vu ce que Dieu dit, puis Éliab, lui, il fait entendre un son de cloche tout à fait différent. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Je connais ton insolence et ton caractère vicieux. Orgueil, caractère vicieux, malicieux, c'est exactement l'inverse de la droiture. Or c'est quand même bizarre, parce que quand on étudie toute la vie de David, on se rend compte d'une chose, c'est que les deux qualités spirituelles indissociables qui étaient au cœur de la vie de David, c'était l'humilité, précisément. Un homme qui savait dire « j'ai tort ». Et c'était la droiture. Donc son frère aîné a un verdict qui va complètement à sens contraire de tous les autres. Et mes amis, c'est très simple. Le problème d'Éliab, c'est qu'il révèle le fond de son propre cœur. Et nous avons là tout simplement un phénomène bien connu de projection. Ce que Jung appelait le phénomène de l'ombre. Ce que l'on refoule au fond de soi-même parce que ça nous dérange, que l'on n'aime pas. Et qui est chez soi? On fait descendre l'ascenseur. Plutôt que de le régler, de l'avouer, de le reconnaître, de le déposer à la croix, de se laisser reprendre par la vérité. Mais le problème, c'est que quand on croise sur sa route quelqu'un qui apparemment présente les mêmes symptômes, qu'est-ce qui se passe? L'ascenseur remonte. Et on projette sur l'autre les turpitudes de son propre. Alors je comprends pourquoi Dieu n'avait pas choisi Éliab. Nous avons là une radiographie du cœur naturel d'Éliab. Il ne peut pas supporter cette attitude de David et il confond la foi de David avec la présomption orgueilleuse que l'on peut avoir. Et il plaque sur David ses propres problèmes, comme il nous est si facile de le faire dans nos relations les uns avec les autres. Alors nous allons ce soir nous arrêter là après ce premier petit défrichage. Nous avons situé David en tant que personnage dans le cadre général des Écritures. Nous avons considéré ces trois onctions pour mieux comprendre ce passage de la royauté en devenir à la royauté effective dans nos vies par le travail de formation. Et puis nous avons vu en quelque sorte le socle, la base, la matière sur laquelle Dieu va travailler. Alors nous verrons, à partir de demain jusqu'à dimanche, comment Dieu s'y est pris pour travailler ce cœur, pour pétrir, pour transformer cet homme, ce jeune homme, selon son cœur, qui aspirait à une vie de droiture, à une vie de vérité, à une vie entière, qui allait être un homme passionné pour Dieu, l'aimant follement, et qui est un défi pour nous. Et ainsi, nous serons mieux à même de comprendre la pédagogie de Dieu pour nous former nous-mêmes dans notre vie de tous les jours et souvent par des chemins qui peuvent être difficiles parce que les chemins de souffrance sont ceux par lesquels nous apprenons véritablement à devenir des hommes et des femmes de Dieu. David nous a précédés pour nous encourager. Et je voudrais que cette série soit vraiment une occasion d'encouragement et de réflexion, de rentrer en nous-mêmes en quelque sorte, où nous reprenions un certain nombre de mesures pour mieux avancer, mieux servir, être vraiment des hommes et des femmes selon le cœur de notre Dieu. Nous voulons prier et te remercier, Seigneur, te remercier, te bénir pour ta parole, pour notre ami David, celui que nous retrouverons là-haut dans ta gloire. Merci Seigneur pour ton choix, merci pour ce que tu as fait dans la vie de ce jeune homme, pour la formation, pour tout ce que tu nous dis dans ta parole qui peut nous aider nous-mêmes dans notre cheminement avec toi, afin que nous devenions vraiment des hommes et des femmes spirituels dans lesquels tu règnes, que notre cœur devienne de plus en plus ton trône incontesté. Seigneur, aide-nous à aspirer à la droiture de cœur, à la vérité. Aide-nous à aimer la vérité plus que notre dignité aux yeux des autres. Seigneur, ce qui est important, c'est ce que toi tu penses. Oh, aide-nous à remettre vraiment nos pendules spirituelles à l'heure pour que notre mentalité colle avec la tienne, que tes valeurs deviennent les nôtres à chacun. Merci de nous visiter, de nous raccompagner, de bénir notre repos, de nous aider à repasser tout cela dans notre cœur et de préparer d'ores et déjà la soirée de demain pour qu'elle soit une bonne soirée de rencontre avec toi, toi Seigneur, les délices de nos âmes. En Jésus-Christ. Amen.